Bonjour à toutes et tous, bienvenue sur Radio Campus. Nous sommes
Louise Méchet
et Margherita Chalino, deux étudiantes en master en journalisme à l'ULB. Vous allez écouter Histoire de savoir, une émission consacrée à la vulgarisation des sciences exactes. Aujourd'hui, nous allons parler météorites et grâce à la magie de la radio, nous aurons le plaisir de vous amener sur le continent blanc, en Antarctique. Quel est le lien alors entre l'Antarctique et les météorites ? Ne bougez pas, on vous explique tout.
Aujourd'hui, nous accueillons Vinciane Desbailles, directrice de recherche au FNRS, les fonds de la recherche scientifique et professeure à l'ULB. Géologue de formation, elle est spécialisée en géochimie, c'est-à-dire dans l'étude de la composition chimique de roches. À partir de là, elle étudie la composition des météorites et la formation du système solaire. La grande majorité des météorites proviennent de la ceinture d'astéroïdes, située entre Mars et Jupiter. Certaines viennent de la Lune et d'autres de Mars. Il arrive qu'elles entrent dans l'orbite de la Terre et qu'elles s'écrasent sur notre sol.
On n'est pas dans cette vision de film de science-fiction où on ne peut pas passer à travers. Hein, donc un satellite, un vaisseau spatial pourrait tout à fait passer à travers. Mais néanmoins, on a vraiment une concentration de petits corps rocheux, d'astéroïdes. Et la plupart vont tourner de manière assez circulaire autour du Soleil. Mais certains vont avoir une orbite beaucoup plus elliptique et vont en fait traverser l'orbite de la Terre. Et donc la grande majorité des météorites viennent de ces astéroïdes. Quand je dis la grande majorité, c'est qu'en fait on a deux exceptions. Ce sont des météorites qui viendront de la Lune et de Mars.
Il existe une zone du monde qui est considérée comme la meilleure place sur Terre pour trouver des fragments des météorites. C'est l'Antarctique. Pourquoi alors ce continent est si important pour votre domaine d'étude, Vinciane Desbailles ?
Alors l'Antarctique, tout d'abord, c'est un continent gelé, hein, donc évidemment, il est blanc. Et donc les météorites sont très faciles à trouver en Antarctique. Hein, vous avez vraiment un petit point noir sur la glace blanche. L'autre intérêt de l'Antarctique pour nous, ce seront qu'elles sont gardées au frigo, donc c'est un désert. Et en plus, c'est un désert froid. Donc ça veut dire que je ne vais pas avoir de très grandes variations jour-nuit, comme je pourrais en avoir dans les déserts chauds. Enfin, si on regarde un peu plus dans les détails, on peut malgré tout avoir de l'altération. Donc les météorites seront altérées malgré tout en Antarctique, mais c'est une altération qui va être beaucoup plus lente que n'importe où ailleurs. Le point le plus important finalement de l'Antarctique, ce sera qu'on a un mécanisme de concentration naturelle des météorites. C'est vraiment le mouvement des glaciers qui va concentrer les météorites. Donc ça, c'est vraiment un effet naturel. Et donc l'avantage, c'est que là, on a un énorme continent, donc en fait, on va vraiment avoir un effet d'entonnoir. Par contre, les météorites tombent dans la glace et elles sont incorporées dans les glaciers et elles voyagent avec les glaciers jusqu'à la mer. Et donc là, si elles tombent dans la mer, là, c'est terminé, on ne peut pas les étudier. Mais l'Antarctique, c'est aussi un continent de roches. Et donc, si jamais un glacier bute contre une montagne, en fait, là, il n'a pas le choix, le glacier remonte. La glace va être érodée par les vents. Et donc, en fait, les météorites qui voyageaient avec les glaciers vont se retrouver dans une zone concentrée et que l'on va rechercher en image satellite. Donc, en fait, ce seront des zones où la glace est très bleue. Donc, quand on regarde, même sur Google Earth, en fait, on va très vite voir qu'on a des zones blanches qui sont de la neige et des zones bleues qui sont donc des remontées de glace. Et donc nous, tout simplement, on va chercher en image satellite ces zones de glace bleue et on va y aller. Et là, en fait, on va trouver plusieurs centaines de météorites par kilomètre carré. On a vraiment un mécanisme de concentration naturelle qui rend les campagnes antarctiques beaucoup plus efficaces que n'importe où ailleurs, même si les conditions climatiques ne sont pas terribles.
Ok, donc en résumé, les campagnes antarctiques sont si efficaces car 1. La glace rend ces petites pierres noires très visibles. 2. Le climat rigide est propice à leur conservation. Les météorites sont gardées au frigo alors qu'elles subissent des transformations chimiques dans d'autres zones du monde.
Et il ne faut pas oublier le mouvement des glaciers. En gros, l'Antarctique fonctionne un peu comme un entonnoir. Les glaciers et le vent rassemblent les météorites dans des zones de glace bleue, là où elles ressortent à la surface et sont plus faciles à récupérer.
Un point également important, c'est que c'est une zone qui est protégée par le traité antarctique et qui est vraiment réservée à la science. Donc par exemple, n'importe qui peut aller dans le désert du Sahara ou de l'Atacama ramasser des météorites. Si les gens les mettent dans leur poche, c'est terminé, on ne saura jamais de quelle météorite il s'agit. Et donc malheureusement, on a beaucoup de météorites comme ça qui sont perdues parce qu'elles sont dans les poches des gens, dans des collections privées. Parfois, les gens les revendent, mais alors elles sont très très chères. Et donc là, en tant que pauvre scientifique, je n'ai pas l'argent pour les acheter. Et donc ça, c'est vraiment l'intérêt de l'Antarctique, c'est que toutes les météorites collectées en Antarctique sont disponibles gratuitement à toute la communauté mondiale scientifique.
Vinciane Desbailles a justement évoqué un accord entre les pays visant à partager les données récoltées sur place. Tu peux nous en dire plus, Louise ?
Eh bien, il s'agit du traité sur l'Antarctique entré en vigueur en 1961. Ce traité fait de l'Antarctique une zone consacrée à la paix et à la science. Il garantit la liberté de la recherche scientifique et interdit toute forme de prétention du sol antarctique. Cela n'est pas anodin, car le continent blanc a longtemps été au centre de nombreuses revendications territoriales. Aujourd'hui, 58 pays ont ratifié l'accord et coopèrent pour en assurer la mise en œuvre.
Merci Louise, maintenant c'est plus clair. Mais parlons encore de cette zone du monde. Depuis 2010, Vinciane Desbailles participe aux expéditions en Antarctique. Par ailleurs, entre 2024 et 2025, l'ULB et la VUB ont mené une campagne dans les montagnes Belgica, dans la partie orientale du continent. Une mission qui a permis de collecter 115 météorites pesant plus de 2 kg. On a donc demandé à notre experte à quoi ressemble une expédition sur le terrain.
Une journée en Antarctique, ça reste toujours, je veux dire, un peu bizarre, dans le sens où c'est vraiment la météo qui va guider nos activités de la journée. Donc, s'il fait mauvais, s'il y a du vent, il y a de la neige, on ne sort pas, tout simplement. Les jours où il fait beau, bien là, on va se lever à son aise, déjeuner, et puis on fait son pique-nique et on part sur le terrain en motoneige. Donc ça, c'est vraiment chouette. En fait, la veille au soir, on prépare des cartes avec des points GPS et on va se rendre donc dans la zone délimitée de la journée, et donc on va vraiment faire des zigzags. Donc c'est vraiment une chasse aux œufs. J'ai eu des expéditions sur des zones assez compliquées. Donc là on était en altitude, il faisait vraiment plus froid qu'ailleurs. Alors, quand je dis plus froid, donc à 3000 mètres d'altitude, on avait entre moins 20 et moins 30 degrés. On commençait sa journée vers midi. À partir de 18h, ben là en fait le soleil redescendait dans l'horizon, et donc là les ombres deviennent très grandes en fait. Et donc là on voit plein de petits points noirs, et donc là on ne voit plus très bien. Alors l'Antarctique est au-delà du cercle polaire, donc en fait on va avoir des périodes de nuit de 24 heures, et donc entre avril et septembre à la louche. Par contre, ce sera idéal pour des collègues astronomes, hein, puisque le ciel est magnifique. Mais donc, évidemment, le fait d'aller sur le terrain, ce seront vraiment des activités qu'on va garder pour l'été antarctique. Et donc, généralement, la saison va s'étendre de novembre à février. On essaye vraiment de collecter les météorites dans les meilleures conditions possibles. Donc, par exemple, on va essayer de ne pas les toucher, donc on les reconnaît uniquement à l'œil. On ne met pas d'aimant dessus, on prend une position GPS, on documente, en fait, on prend des photos, comment elle était placée, est-ce qu'on avait de la neige, etc. Et ensuite, on va prendre un sachet plastique et on va l'utiliser comme une cuillère pour essayer de collecter la météorite sans la toucher. Donc, pour éviter la contamination par de la matière organique humaine. Les météorites vont être transportées au laboratoire congelé pour essayer de collecter la météorite sans la toucher. Et à partir de là, va commencer un travail très minutieux, qui est un petit peu ingrat, mais qui est de cataloguer, en fait, tout ce qu'on a trouvé.
On parlera plus en détail des différents types de météorites dans la deuxième partie de l'interview. Mais avant de vous laisser pour une pause musicale, nous avons encore une anecdote pour vous. En dehors de l'Antarctique, il existe d'autres endroits favorables à la découverte de météorites. C'est notamment le cas de déserts chauds comme le Sahara en Afrique et le désert d'Atacama en Amérique du Sud.
Ah bon Louise, qu'est-ce qui rend ces endroits du monde si importants pour la recherche scientifique ?
Les météorites contiennent du fer et, une fois arrivées dans notre atmosphère, elles commencent à subir des transformations chimiques, notamment sous l'effet de l'oxygène. Puis, avec la pluie, le vent, le gel, elles finissent par rouiller, se dégrader et devenir de simples poussières. Elles sont donc impossibles à repérer.
Ok, donc en résumé, les déserts chauds préservent les météorites de l'érosion grâce à leur climat aride, c'est ça. Donc nous nous retrouvons dans quelques instants pour la suite de l'interview, mais avant, pause musicale avec Under Ice de Kate Bush. Past trees. Nous sommes de retour sur Radio Campus et vous venez d'écouter Under Ice de Kate Bush. Aujourd'hui, nous accueillons sur le plateau d'Histoire de Savoir la géologue Vinciane Desbailles, professeure à l'ULB spécialisée en géochimie. Nous avons parlé du continent Antarctique que la chercheuse connaît bien car elle s'y rend depuis 2010. Ce continent alors est important pour les recherches de Vinciane Desbailles. Mais pourquoi, Louise ?
Le climat extrêmement froid et sec de l'Antarctique agit comme un congélateur géant pour les météorites. Les cailloux noirs sont facilement repérables sur la glace blanche, rendant la détection beaucoup plus rapide qu'ailleurs. Une fois l'expédition en Antarctique finie, on retrouve Vinciane Desbailles dans son laboratoire à l'ULB.
Les météorites sont transportées, congélées et décongélées sous vide au laboratoire. Qu'est-ce qui se passe ensuite ?
Une par une, il faut scier la roche, il faut l'ouvrir, il faut l'analyser. Et à partir de là, on va créer des bases de données qui sont donc accessibles à tous les scientifiques du monde entier. Et donc, je disais que c'est un travail assez ingrat parce qu'il est très répétitif, mais il est absolument nécessaire parce que sinon, ces météorites auraient été collectées et on ne sait pas c'est quoi et on ne les étudiera jamais. Une météorite prend le nom de la ville ou de l'endroit où on l'a trouvée et une famille de météorites prend le nom de la première météorite que l'on a trouvée.
Comme Vinciane le disait dans la première partie de l'interview, une fois les météorites arrivées au laboratoire, elles sont cataloguées. Mais est-ce que toutes les météorites font partie de la même famille ?
Quand on regarde les météorites, on va avoir deux grandes familles. On va avoir une famille de météorites, donc les chondrites, qui sont restées intactes depuis le début du système solaire. Et elles, typiquement, je vais les utiliser pour comprendre comment le système solaire s'est formé. Donc en fait, tout commence avec un gros nuage de gaz qui va condenser, former des poussières, puis les poussières vont se coller les unes aux autres jusqu'à former des gros morceaux rocheux. Et donc, en fait, on va retrouver plein d'indices sur la formation de notre système solaire.
Mais il y a également une autre famille de météorites.
L'autre famille de météorites, ce seront des achondrites. Ce sont des météorites qui ont fondu, au contraire. Donc elles témoignent d'astéroïdes qui ont connu de l'activité volcanique au début du système solaire, ou de planètes d'ailleurs. Et donc elles vont vraiment nous renseigner sur comment je passe d'un astéroïde primitif qui n'a jamais fondu à une mini-planète. Et qui dit mini-planète dit un noyau de fer, comme on a aujourd'hui sur Terre, un manteau et une croûte. Et là, en fait, ce sont des mini-terres. Donc finalement, étudier ces astéroïdes qui ont fondu, ça nous permet en fait de comprendre comment on va former les plus grosses planètes.
D'où proviennent alors ces météorites que l'on observe ?
On a maintenant des cas où on peut mesurer la composition d'un astéroïde à distance. Et là, alors, on essaye au laboratoire de reconstituer une paire astéroïde et météorite. Et alors, évidemment, dans le cas de la Lune et de Mars, ben là, pour les roches lunaires, on a des comparaisons avec les roches qui ont été ramenées par les missions Apollo. Et pour Mars, alors évidemment, c'est un petit peu plus compliqué, mais on a mesuré des petites bulles de gaz, en fait, qui sont prisonnières dans ces météorites martiennes. Et on connaissait justement la composition de l'atmosphère de Mars grâce aux sondes Viking. Et donc, en fait, on a pu faire le match entre les deux. Et donc, l'atmosphère, les bulles de gaz dans les météorites martiennes correspondent à l'atmosphère martienne.
Mission Apollo, sonde Viking, il vaut mieux rappeler de quoi il s'agit. Peut-être que vous avez entendu parler de la première, la mission Apollo. Il s'agit d'une série de missions spatiales de la NASA visant à envoyer des humains sur la Lune. Et ils ont eu lieu de 1961 à 1972. Quant à la sonde Viking, on est toujours dans les années 70 et c'est encore un programme spatial signé par la NASA. Mais cette fois-ci, c'est Mars, la planète rouge, la cible de la mission.
Est-ce que les deux familles de météorites tombent de manière égale sur Terre ?
Quand on fait des familles de météorites, on va constater qu'on a en fait malheureusement une répartition assez inégale. Donc la majorité des météorites qui va tomber sur Terre, à la louche 9 fois sur 10, ce sont des météorites que l'on va appeler des chondrites. Donc ça, ce sont des météorites qui sont primitives, qui viennent d'astéroïdes qui n'ont pas bougé depuis le début du système solaire, donc très anciennes, et que l'on va appeler ordinaires. Alors ça peut paraître un petit peu snob, mais c'est justement pour signaler ce caractère très commun, en fait. C'est que, donc, c'est fameuse chondrite ordinaire, 9 fois sur 10, ce sera les météorites que l'on va retrouver. Alors évidemment, on a d'autres types de chondrites, et puis on va avoir des météorites très très rares. Et donc ça, malheureusement, voilà, ça c'est un petit peu la loi de Murphy appliquée aux météorites, c'est que, bah, évidemment, plus généralement elles seront intéressantes, alors à mes yeux, hein, je suis peut-être pas très objective, mais plus elles sont rares. Par exemple, pour une météorite martienne, on va en retrouver une à peu près toutes les 1000 météorites. Une ou deux toutes les 1000 météorites. Et donc, en fait, c'est pour ça que l'on continue de chercher des météorites. Même si on en a déjà beaucoup, c'est que, bah, évidemment, on va chercher ces types rares qui sont les plus précieuses également.
Et concrètement, ça représente combien en termes de nombre de météorites qui tombent sur notre planète ?
Estimer la quantité de météorites qui tombent tous les ans sur Terre, c'est un exercice assez compliqué parce que malheureusement, on ne les voit pas toutes arriver. Et en plus, il faut se dire que, bah, de manière statistique, vu que la surface de la Terre est composée de 2/3 d'océan, eh bien 2/3 des météorites tombent dans l'eau. Donc finalement, là, on ne pourra pas les retrouver. Néanmoins, c'est un exercice qui a été fait plusieurs fois, alors qui va être fait de manière indirecte, évidemment, puisqu'on ne voit pas toutes les météorites tombées. Mais on arrive quand même à des estimations convergentes qui sont de l'ordre de 47 000 tonnes de matériel extraterrestre qui tombe par an. Par contre, je vais un petit peu nuancer, c'est qu'on va distinguer les micrométéorites, qui sont des poussières de l'espace, donc en dessous de 2 mm, et puis les météorites, hein, donc au-dessus de 2 mm, mais généralement de la taille d'une dizaine de centimètres. Et donc, la bonne nouvelle pour nos têtes, quand même, c'est que la majorité du matériel extraterrestre, ce sont des micrométéorites. Donc des petites poussières qu'on a un peu partout, qu'on ne va pas retrouver facilement, hein, il faut des microscopes. Et donc là, on est dans l'ordre de 40 000 tonnes de micrométéorites qui tombent par an sur Terre, et donc seulement, entre guillemets, 7 000 tonnes de météorites qui tombent par an. De manière statistique, il n'y a pas d'endroit où on va avoir plus de météorites qu'ailleurs. Donc en fait, il en tombe un peu partout, de manière relativement uniforme. Quand je regarde, en fait, toutes les planètes sont dans le même plan autour du Soleil, c'est le plan de l'écliptique. Et donc, on pourrait raisonnablement se dire que les météorites vont peut-être plutôt tomber autour de l'équateur que les pôles. Mais c'est pas quelque chose que l'on voit non plus de manière formelle, en fait. Donc on peut partir sur l'idée qu'il tombe plus ou moins la même quantité de météorites partout sur Terre.
Ce chiffre évolue-t-il au fil des ans ?
Alors ça, c'est une très bonne question. C'est l'objet de recherches, justement, où on essaie de remonter dans le passé et de voir est-ce qu'on a des pics, en fait, d'arrivée de matériel extraterrestre. Quand on regarde l'histoire géologique, on a des événements. Alors, les plus dramatiques sont des extinctions de masse, là où on va perdre 70 à 90% des espèces animales. Et l'exemple le plus célèbre, évidemment, c'est la disparition des dinosaures avec la météorite qui est tombée au large du Mexique, donc à Chicxulub. Et évidemment, c'est un exemple emblématique. Et donc, dans le passé, on essaye justement de voir, en fait, est-ce qu'on aurait des cas similaires où une météorite aurait pu causer des extinctions de masse. Donc ici, c'est les chiffres de 47 000 tonnes par an, on va dire que c'est sans doute relativement stable sur les deux derniers millions d'années, mais en effet, il peut y avoir des fluctuations dans le passé qu'on essaye justement de reconstituer.
La géochimie des météorites, votre spécialité, Vincent Desbailles, permet finalement de mieux comprendre la formation et l'évolution du système solaire. La Terre fait donc partie du système solaire. Est-ce que nous connaissons bien notre planète aujourd'hui ?
Ça peut paraître bizarre de se dire que la Terre, on la connaît pas si bien que ça. On est dessus, donc ça paraît normal de bien la connaître. Mais en fait, l'histoire géologique fait que je vais effacer toutes les traces anciennes de la formation de la Terre. Donc la Terre a environ 4,5 milliards d'années, mais les plus vieilles roches ont seulement 4 milliards d'années. Donc en fait, ça veut dire que dans l'enregistrement géologique, il me manque 500 millions d'années. Et ces 500 millions d'années, on va justement aller voir sur Mars, on va aller voir sur la Lune, on va aller voir sur ces fameuses astéroïdes pour essayer de reconstituer le puzzle de comment on a formé la Terre.
Personnellement, dans votre travail, quelle est la météorite la plus surprenante que vous avez étudiée ?
La météorite la plus surprenante aujourd'hui, c'est une météorite hybride. Donc dans les achondrites, on voit des choses très bizarres. On voit des astéroïdes qui sont très appauvris en éléments volatiles. Au contraire, on en voit qui vont être très riches en carbone. Donc on voit vraiment une très grande variété. Et on a trouvé une météorite que l'on va appeler une angrite, parce que la première qui a été trouvée dans la ville de Angra dos Reis, qui se trouve au Brésil. Et donc on commence à l'analyser avec nos collègues japonais d'ailleurs. Et puis là, en fait, on se rend compte que c'est un peu Frankenstein, cette météorite. C'est-à-dire qu'on a des compositions chimiques différentes. Donc en fait, on a des gros morceaux de minéraux qui viennent d'un autre astéroïde et qui ont été injectés, qui se retrouvent maintenant dans une météorite d'un astéroïde. Donc en fait, j'ai un astéroïde A et B qui ont dû rentrer en collision et j'ai des morceaux de B que l'on retrouve maintenant dans A. Et dans les deux cas, ce sont deux astéroïdes donc, qui ont fondu. Et évidemment, ben là, c'est un peu du Sherlock Holmes parce que je manque vraiment d'indices, mais c'est la plus fascinante que j'ai étudiée jusqu'à présent.
Et ce genre d'étude vous prend longtemps ?
Alors, c'est une étude qui est en cours, mais c'est une météorite qu'on a trouvée lors d'une expédition antarctique en 2012-2013. Ça prend longtemps. L'étude n'est même d'ailleurs pas finie parce qu'on a besoin d'analyses chimiques qui sont vraiment très poussées, qui ne sont pas faciles à faire. Les instruments, parfois, sont un peu capricieux. Donc, en fait, on va très vite perdre un mois parce qu'on a une panne, parce qu'on n'arrive pas à mesurer comme on veut. Donc, en fait, les mesures que l'on va faire au laboratoire sont tellement précise que l'on va vraiment dépendre malheureusement de facteurs externes, ce qui fait que parfois on n'avance pas au rythme que l'on voudrait. Évidemment, quand les météorites reviennent au laboratoire, il faut le temps de toutes les analyser, donc toutes couper un petit morceau, faire une première classification, donc voir dans quelle famille elle appartient. Et puis à partir du moment où on sait dans quelle famille elle appartient, on va seulement pouvoir commencer à l'étudier en fait. Des fois, c'est vrai que j'aimerais être plus rapide. Parfois, j'ai un peu cette impatience d'avoir des résultats rapidement, mais voilà, la science demande aussi du temps. Et c'est aussi quelque chose que j'apprends avec les missions spatiales, en fait, puisque je travaille sur le robot qui roule sur Mars. Et là aussi, en fait, on parle d'échelle de temps sur 10, 20 ans. On prépare le futur, en fait.
Donc, Vincent Desbail, on entend bien que l'analyse prend du temps et nécessite surtout un travail minutieux. Que faites-vous alors de ces petites pierres noires une fois l'activité en laboratoire terminée ?
À partir de là, on va parfois garder les plus beaux spécimens pour les exposer. Donc là, c'est quelque chose qui reste important, c'est quand même de pouvoir montrer au public ces roches, hein, qui sont aussi bien fascinantes scientifiquement, mais parfois esthétiquement. Donc parfois, on a des spécimens qui sont vraiment très esthétiques. Et donc là, on a des discussions en fait en interne de quelle météorite est-ce qu'on va par exemple garder pour une exposition. Et puis après, elles sont toutes disponibles pour la science. Et donc là, ce seront aux scientifiques du monde entier de regarder ces catalogues et de se dire « Ah ben en fait, là, cette météorite, c'est exactement mon sujet d'étude, donc je vais demander un petit morceau. » Là, après, on a un comité qui va évaluer la demande. Est-ce que c'est sérieux ? Est-ce que c'est un chouette projet ? Est-ce que c'est raisonnable ? Parce qu'évidemment, ce sont des échantillons qui restent précieux, donc je ne peux pas demander un échantillon entier, sinon il a disparu pour les autres scientifiques. Et donc, on a des discussions en interne sur les prêts ou les dons d'échantillons. Parfois, on a des analyses qui sont destructives. Et donc là, en fait, les collections vivent leur vie en tant que collections de musées disponibles pour les scientifiques.
Il y a donc tellement de types de météorites. Leurs fragments tombent au sol et très rarement, il est possible de les retrouver dans vos jardins. Mais est-ce que la chute des météorites est finalement dangereuse pour les individus ? Peuvent-elles causer la mort des êtres humains ? Vincent Desbailles nous dit qu'il y a très peu d'accidents répertoriés. Mais quand même, il y a eu des cas dans l'histoire. En 1954, un fragment de 18 cm de diamètre a traversé le toit d'une maison dans le sud-est des États-Unis. Une femme a été heurtée par la météorite, elle s'en est sortie avec un énorme hématome à la cuisse. Mais il y a aussi des cas plus près de chez nous. C'est vrai, Margherita ?
Tout à fait. On est en 1971 dans le petit village de Tintigny, dans la province de Luxembourg. Une pierre noire tombée du ciel traverse le toit d'une grange. Aujourd'hui, cette météorite fait partie de la collection du Muséum des sciences naturelles de Bruxelles. Et récemment, en mars 2026, une météorite a été observée en Belgique, en France et dans d'autres pays en Europe. Ces fragments sont tombés et ont percuté le toit d'une maison en Allemagne.
Il existe une base de données en ligne appelée Meteor Index qui recense les chutes de météorites. D'après la NASA et le Center for Near Earth Object Studies, qui alimentent cette base de données, plus de 45 000 météorites ont été retrouvées sur Terre. Mais comment les reconnaître? Comment les distinguer d'un simple caillou noir? Avant de passer la parole à notre experte, voyons si les étudiants et les étudiantes de l'ULB ont la réponse.
Dans ma tête, pour moi, une météorite, c'est vraiment un énorme truc. C'est vraiment comme un énorme rocher qui fait plusieurs, ouais, des centaines de mètres ou quoi. Pour moi, c'est, je sais pas, un noir, hein, c'est des couleurs assez sombres.
Un fragment de météorite, j'en aurais aucune idée, à part que le sol, je dirais, se fragmenterait en deux, la Terre serait détruite et tout serait finalement détruit et on arriverait à un monde peut-être chaotique. La couleur, je vois plutôt ça rouge, un peu orangé, jaune, ou au contraire, je verrais ça plutôt noir, marron, dans les tons gris.
Une fois tombé sur Terre, je verrais ça comme une sorte de rocher avec plein de petites aspérités, des petits trous, peut-être des métaux brillants dessus, ou je sais pas du tout. Du coup, là, il y a pas longtemps, en fait, on en a vu un avec mes potes quand on était posé au bois de la Cambre avec un petit verre. Et on voit vraiment un truc hyper lumineux dans le ciel, mais pas une étoile filante, c'était vraiment beaucoup plus gros et très lumineux. Et donc là... surtout avec le contexte géopolitique actuel, je me suis dit « merde, c'est un missile ». Et au final, non. Il s'est avéré que c'était, ils appelaient ça un bolide. Donc ça s'était écrasé, je pense, en Allemagne. Et ça avait fait des petits dégâts matériels, mais sans plus.
Alors, comment reconnaître une météorite? Ça, c'est vraiment une question alors qui peut sembler facile, mais qui reste assez difficile. Donc, on va se concentrer sur l'aspect. Hein, donc, comme la météorite traverse l'atmosphère, elle va s'échauffer. Donc, l'extérieur va fondre et on va avoir une croûte de fusion. Donc là, il faut penser un peu comme un gâteau brûlé. Hein, donc, on aura une surface très, très noirâtre, mais qui peut devenir un peu brunâtre, un peu rougeâtre avec le temps, parce que généralement, les météorites ont du fer, donc elles vont rouiller. Donc, cette couleur noire va devenir un peu brun-rouge. Donc là, de nouveau, voilà, c'est un peu compliqué. Parfois, la croûte de fusion peut disparaître dans le désert avec l'altération du vent, etc. Cette croûte de fusion peut disparaître. Un indice, ce sera que l'intérieur de la météorite a une couleur très différente de l'extérieur. L'extérieur donc sera assez sombre, l'intérieur sera plutôt clair. Donc là aussi, on a une différence de couleur intérieur-extérieur. On peut regarder si la roche est magnétique. 95% des météorites seront magnétiques. Donc si je mets un aimant dessus, l'aimant va coller. Mais j'ai quand même 5% des météorites qui ne seront pas magnétiques. Donc là aussi, j'ai un indice qui n'est pas absolu. Je dirais également l'endroit où on va la trouver. Si je me trouve dans un désert et qu'il n'y a pas une roche à la ronde et que j'ai un caillou devant moi, la probabilité qu'il vienne de l'espace est beaucoup plus grande que ce soit quelque chose qui soit local. Donc voilà, c'est plutôt des faisceaux de présomption qui vont converger. Et alors, évidemment, le point ultime, c'est l'analyse chimique. Donc ça, c'est ce que nous ferons au laboratoire. On regarde les minéraux, on regarde la composition chimique. Ça, c'est vraiment le point final pour reconnaître une météorite. Si vous pensez avoir trouvé une météorite, le mieux, c'est de prendre de bonnes photos. Ça peut faire sourire, mais des fois, je reçois des photos très, très floues. Donc, voilà. Et on peut m'envoyer un email. Alors, généralement, ça ira très, très vite, hein, pour identifier une météorite. Donc, comme je disais, c'est un peu compliqué, mais avec l'habitude, on voit très vite s'il s'agit d'une météorite ou pas. Et alors, si j'ai un doute, par contre, là, je demande aux gens de venir montrer la pierre. Et là, on peut commencer à regarder un peu plus en détail. Maintenant, malheureusement, en Belgique, c'est un peu compliqué. Donc, on va avoir historiquement beaucoup de roches qui vont ressembler à des météorites. Une fois, on m'a apporté un boulet napoléonien, par exemple. Donc, évidemment, ce sera quelque chose de très rond, de très noirâtre. Donc, voilà. Donc, ça, c'était assez rigolo. On va avoir beaucoup de résidus d'industrie. Donc, en fait, au Moyen-Âge, on avait beaucoup de petites fonderies pour faire du fer local. Et donc maintenant, tout a disparu, évidemment, mais les rochers issus, donc les scories issues de cette activité, restent dans les champs. Et donc ça, c'est typiquement ce qu'on va m'amener. Typiquement, ce genre de roche ne sera pas magnétique, par exemple, parce que justement, on a extrait le fer. Donc ce sont des roches qui sont non magnétiques.
Donc, chères auditrices et chers auditeurs, vous avez bien entendu que si vous trouvez une petite pierre noire dans votre jardin, il y a un petit pourcent de chance que ce soit un fragment de météorite. N'hésitez pas à écrire un mail à vinciane.debaille@ulb.be pour qu'elle soit vérifiée. Maintenant, pause musicale avec La Lune, un titre signé par le groupe français L'Impératrice.
Vous êtes bien sur Radio Campus et vous venez d'écouter La Lune, un morceau du groupe français L'Impératrice. On reprend alors notre émission Histoire de savoir sur les météorites et on aborde maintenant un sujet encore plus actuel. La fonte de l'Antarctique est une évidence, donc on a demandé à Vinciane Debaille si finalement le changement climatique impacte ses recherches.
Alors l'Antarctique est un peu paradoxal en termes de changement climatique parce qu'il va être vraiment divisé en deux. Donc on a une chaîne de montagnes qui traverse l'Antarctique, qui va faire un tiers et deux tiers à peu près. Donc on a un tiers qui va comprendre la péninsule antarctique et que l'on va appeler Antarctique de l'Ouest et qui lui va être très susceptible au changement climatique. Donc en fait là malheureusement il y a des études qui montrent un très gros recul des glaciers, etc. Par contre, de manière un peu paradoxale, l'Antarctique de l'Est est beaucoup moins important impacté. Et là, on va même voir l'inverse. En fait, c'est une augmentation de la quantité de glace. La base belge est située dans des montagnes face à l'Afrique du Sud, et donc on est dans l'Antarctique de l'Est. Et donc, personnellement, sur le terrain, c'est pas quelque chose du coup que l'on va pouvoir observer, puisque l'Antarctique de l'Est, là où je vais, est beaucoup moins impactée, ne montre en fait pas vraiment d'impact pour le réchauffement climatique pour l'instant. Alors il n'y a pas de changement propre à la Terre qui pourrait déclencher une augmentation du flux de météorites, ce seront plutôt des paramètres astronomiques. Donc la position de la Terre dans le système solaire, il y a des légères fluctuations, l'orbite de la Terre n'est pas tout à fait stable. On peut avoir des comètes, par exemple, qui vont laisser beaucoup de poussière. Et puis, quand la Terre traverse ce nuage de poussière, on va avoir beaucoup d'étoiles filantes. Donc les paramètres qui vont influencer le flux de météorites seront plutôt des paramètres astronomiques.
C'est déjà la fin de cette émission Histoire de savoir sur Radio Campus qui nous a permis de vous emmener des labos de l'ULB jusqu'au continent blanc pour parler météorites, glaciers, systèmes solaires et recherches scientifiques.
Un sujet fascinant que nous avons pu explorer à l'aide de Vincent Desbaye, professeur à l'ULB spécialisé en géochimie. Son expérience sur le terrain, notamment grâce aux campagnes en Antarctique, nous a permis d'apprendre davantage sur l'importance de cette zone du monde pour la découverte des météorites. Merci alors à notre intervenante et à ma camarade Louise Méché.
Merci Margherita Chalino et merci également à l'équipe technique. Belle journée à toutes et tous et à la prochaine fois sur Radio Campus.